Hola, hola, chers auditeurs. Bienvenue dans l'émission Rencontre lusophone, une émission proposée par Radio Résonance sur la fréquence 96.9 et qui, tous les samedis, vous emmène à la rencontre de la lusophonie. Une émission lusophone, mais en français, s'il vous plaît, pour une meilleure accessibilité à tous. Une fois n'est pas coutume, ce soir, l'équipe est au complet. Bonsoir, Jeff.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir, Manu.
Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, Hélène.
Alors ce soir, Manu, tu nous as préparé la suite de l'histoire de Lisbonne en nous faisant une rétrospective de la ville de 1400 à la veille du terrible tremblement.
Veille du tremblement de terre.
Du 1755, c'est ça.
C'est,
je trouve, un parfait portrait social de la ville d'antan avec des descriptions quelquefois très crues de la manière de vivre des Lisboètes, n'est-ce pas?
Tout ça. On qui n'est plus la même que celle de maintenant.
Il nous restera plus qu'à. Enfin, il manque plus que les odeurs. Quelquefois,
c'est ça.
C'est bien, vraiment parlant. Et tout, Jeff, tout bien contigo?
Tudo bem.
Estás pronto?
Estás pronto? E bora!
Résonance 96.9.
Tu rencontres lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
C'est la petite chronique.
Dans le billet d'aujourd'hui, je suis fière de partager avec vous mon coup de cœur pour un architecte portugais. Il s'agit d'Álvar Cis, une figure majeure de l'architecture contemporaine portugaise au rayonnement international. Avec 87 ans et 66 ans de carrière, il fait partie des architectes les plus primés au monde. Lauréat du prix Miss Vandero en 1988, du prestigieux Pritzker en 1992, du Premium Impérial au Japon en 1998, du Lion d'Or à la Biennale d'Architecture de Venise en 2002 et en 2012, et dernièrement du Grand Prix d'Architecture des Beaux-Arts de Paris pour l'ensemble de son parcours. Son œuvre est riche et très diverse. Piscines, restaurants, logements sociaux, centres culturels, immeubles d'habitation ou de bureaux, musées, maisons privées, stations de métro, églises. Avec un point commun à tous ces projets, la simplicité de leur structure. En effet, des piscines aux bâtiments publics, tous, possèdent une caractéristique commune. La clarté de leur forme, une parfaite intégration dans l'environnement dans lequel ils s'insèrent et un engagement net et ciblé envers les traditions culturelles et architecturales portugaises. Sobriété et adéquation avec l'environnement sont donc l'explication de la renommée et de la particularité de l'architecture d'Álvar Cis. En 1972, la revue italienne Constapazio décrivait l'architecture de Cisa comme une architecture énigmatique, sans rien de spectaculaire, d'où il émanait un sentiment de tranquillité un peu figé. Mais d'où viennent alors la simplicité et la force de l'architecture de Cisa? Eh bien, c'est peut-être dans son parcours et ses origines que l'on trouvera la réponse. Álvar Cis est né à Porto en 1933, la même année que l'Estado Novo, celui de la grande noirceur portugaise dirigée par António de Oliveira Salazar. Il a donc vécu et grandi sous la dictature. Très jeune, il a l'intention de devenir sculpteur. Mais les objections de son père et sa propre admiration pour l'œuvre de l'architecte catalan Antoni Gaudí le conduisent en 1949 à s'inscrire à un programme d'architecture à l'École des Beaux-Arts de Porto. En 1954, un an avant d'obtenir son diplôme, il ouvre un cabinet d'architecture privé à Porto et dessine quatre maisons dans sa ville natale. Devenu architecte, ce sont ces bâtiments qui s'adaptent à leur environnement. Le style Cisa est né. À l'intérieur, les pièces sont souvent très blanches et épurées puisqu'il ne garde que l'essentiel. Il prend l'habitude de tout dessiner dans ses projets, des murs aux interrupteurs, en passant par le mobilier, puisque selon lui, chaque chose a une utilité et une histoire. Cisa est en fait un architecte novateur, moderne et audacieux dans sa conception de l'espace et des volumes. Et dans le même temps, il s'inscrit pleinement dans la continuité de l'architecture portugaise post-révolution des œillets, qui marque la libération du peuple après la dictature de Salazar. C'est ainsi qu'il participe aux années de gauche déclenchées par la révolution des œillets, devenant l'une des figures de l'architecture sociale. Et c'est dans ces années post-révolution, époque de grand espoir, qu'il se penchera sur les logements construits au Portugal entre 1974 et 1976. De cette réflexion naîtra le projet du quartier São Vítor dans la région de Porto, avec un groupe de 12 maisons conçues par lui-même. Avec Fernando Tavora, Architecte portugais dont il a été l'élève, ils seront à l'origine du régionalisme critique au Portugal, un mouvement moderniste qui va s'appuyer sur l'architecture et les savoir-faire locaux. Parce que pour eux, la modernité n'est en aucun cas synonyme de rupture avec le passé. Son tout premier projet sera le célèbre restaurant Boa Nova de Lessa de Palmeira, devenu depuis l'une des références de son style épuré. Son inspiration vient en partie de ses voyages et de ses lectures qui l'ont nourri intérieurement. Et comme il le dit lui-même, l'apprentissage en architecture signifie exactement élargir son champ de référence. Copier, c'est impossible puisque l'architecte manipule la mémoire. Cézanne n'est pas extravagant, il aime la simplicité. À la manière d'un sculpteur, il a l'air et la manière d'emboîter d'immenses blocs aux formes géométriques différentes. Celle de les suspendre dans le vide ou au contraire de les ancrer dans le sol en mariant avec finesse les matériaux bruts comme le bois ou le béton. En somme, il maîtrise parfaitement la forme comme la matière. Cisa, c'est plus de 300 projets et toute une vie consacrée à l'architecture. Le musée d'art contemporain de la Fondation Serralves à Porto vient tout juste de consacrer une rétrospective de son créateur. Celui qui a imaginé sa structure en béton et acier, ses perspectives, ses larges baies vitrées et ses larges espaces d'exposition. 66 ans de carrière, ça se fête. Il est impossible de mentionner ici toutes les œuvres de Cisa, mais toutes sont d'authentiques emblèmes de paysages portugais et internationaux. La Casa de Chá de Boa Nova, le musée Serralves, l'église de Marco de Canaveses, la fondation Iberê Camargo à Porto Alegre au Brésil et bien d'autres répandus dans le monde entier, des États-Unis à la Corée du Sud. En fait, sa notoriété est venue plus rapidement à l'étranger qu'au Portugal, principalement à cause de commissions telles que la restauration du quartier juif de Venise et le quartier de Kreuzberg à Berlin. L'un de ses derniers projets a été réalisé à Manhattan aux États-Unis. Il s'agit d'une tour résidentielle de plus de 137 mètres et 37 étages. J'ai eu la chance de la voir en vrai et je peux vous dire qu'elle se remarque dans ce dédale de tours de verre. Elle trône désormais dans la 56e rue de avenue de Manhattan comme une sculpture monolithique, simple et efficace. Pour terminer cette petite chronique et en guise de synthèse, je voudrais reprendre une des phrases de Cisa en hommage à ma chère fille Sam. Les architectes n'inventent rien, ils ne font que transformer la réalité.
Quem vem e atravessa o rio junto à Serra do Pilar vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte és cascata sanjoanina erigida sobre um monte no meio da neblina por ruelas e calçadas da ribeira até à foz por pedras sujas e gastas e lampiões tristes e só esse teu ar grave e sério num rosto de cantaria oculta o mistério dessa luz bela e sombria. Ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado quem mói um sentimento e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa rever-te nessa. essa altivez de humilhar preferido na asa. Esse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado, de quem mói um sentimento, e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa. Ver-te nessa altivez de humilhar preferido na asa.
C'est l'heure de la chronique culturelle
de Rencontre Lusophone.
Avec la première émission consacrée à Lisbonne, nous nous sommes arrêtés en 1400. À cette date, la ville faisait entre 20 et 30 000 habitants. Nous sommes sous le règne du roi Jean, premier du nom et premier souverain de la dynastie des Avises. Lui et ses descendants allaient écrire les plus belles pages de l'histoire du Portugal, mais aussi, sûrement, celle qui restera à la postérité comme la plus sombre, écrite par le dernier roi de la dynastie, Sébastien. Mais pour l'heure, le tout nouveau souverain veut marquer de son empreinte l'histoire. Il entreprend des nouvelles constructions dans Lisbonne. De cette époque datent les dévotions à différents saints. Les deux plus importants sont Saint Antoine, né à Lisbonne. Il deviendra le saint patron de la ville. Et puis Saint Sébastien, patron des pestiférés. À Lisbonne, tous les saints populaires attachés à la ville sont fêtés entre le 12 et le 13 juin de chaque année. C'est sous le règne de Jean Ier que fut construite l'église du Carme, dont la silhouette de nos jours trône au milieu de bâtiments en haut de la colline qui domine la place de Roussillon. Un des nombreux témoignages de la violence du terrible séisme de 1755. Le toit s'étant effondré et ne fut jamais reconstruit. Magnifique ruine qui rappelle aux Lisboètes que la nature à tout moment peut reprendre ses droits devant la fragile existence des hommes. En 1387, Jean Ier épouse la fille du duc de Lancastre, Philippa, sœur du futur roi des Anglais, Henri IV. Grâce à ce mariage, il consolidera les liens entre le Portugal et l'Angleterre. Il lui donnera 7 fils et 1 fille. Sa descendance sera appelée la génération Insigne. Le plus célèbre reste Henri le Navigateur, qui donnera l'impulsion aux grandes découvertes après la prise de Ceuta en 1415. Jusqu'à la fin de son règne, Jean Ier va embellir Lisbonne. Sur la place de Rossio, il va faire construire le plus grand édifice de la ville de cette époque, le palais des Gestos. Il fera également ériger 3 bâtiments dans le quartier d'Alfama qui seront affectés à l'enseignement universitaire. Il se situera rue des Écoles Générales jusqu'à son transfert définitif à Coimbra en 1537. De plus petits bâtiments verront également le jour, plus principalement des édifices, appelés aussi palais, à caractère administratif, au passe des notaires, de la monnaie, du bois, des poids et mesures, à Fangas. Parmi les bâtiments plus cossus, il y aura celui des douanes et à Casa dos Cons, la maison des impôts, quoi. La grande majorité des rues de Lisbonne sont bordées de petites maisons, 50 mètres carrés en moyenne. Le confort à l'intérieur laisse souvent à désirer. Les maisons possèdent une pièce de réception qui donne sur la rue, une chambre et une cuisine qui donne à l'arrière de la demeure sur un jardin ou une basse-cour. Le Lisbonne du XVe siècle reste une ville très clairsemée. Beaucoup de maisons sont entourées de potagers ou de vergers. Les plus riches ont leur propre pressoir d'huile d'olive ou de vin. Les figuiers, les orangers, les citronniers abondent dans la ville. Les terrains champêtres, les pâturages et les vignes jouxtent les habitations dans le centre de Lisbonne. Également dans les paroisses de San Vicente et de San Cristóvão. Les bergeries et les écuries ne sont pas rares. Et tout ça enfermé entre les murailles de Don Fernando.
Certo fadista de cor morena, boca pequena e olhar trocista. Ai, moraria do homem do meu encanto, que me mentia, mas que eu adorava. Levou consigo, mas que ainda agora e a toda hora trago comigo. Ai, moraria dos roxinóis nos beirais, dos vestidos cor-de-rosa, dos pecais tradicionais. Ai, moraria das procissões a passar, da severa em voz saudosa, na guitarra a soluçar.
Dans la rue Oie Neuve, à partir de 1494, on verra apparaître les premiers bâtiments en dur de 5 étages. Mais il reste une exception. Avec l'arrivage du bois importé de Madère et des Açores, quand il n'est pas utilisé pour construire des navires, il est employé pour l'édification des maisons. Et malgré qu'il y eut de terribles incendies, l'arrivage massif et incessant de bois incitera toujours à reconstruire avec le même matériau. En 1373, pendant le siège des Castillans, les Espagnols mirent le feu aux trois plus importantes paroisses de la ville. Et au quartier des Juifs, à Joderie. Encore à la fin du XXe siècle, un gigantesque incendie détruira une bonne partie de la ville basse, notamment vers la rue d'Ouchiade. L'étroitesse des rues ont toujours préoccupé les autorités, tout le long du Moyen-Âge. À la fin du XIVe siècle, les artères principales sont pavées, mais le reste est fait de rues en terre battue, et il n'est pas rare de voir des coulées de boue, lors des fortes précipitations qui s'abattent sur la ville, entraînant tout sur leur passage, animaux, habitations et bien sûr des êtres humains. Dans ces années-là, la propreté de la voirie n'est pas parfaite. Des officiers municipaux, les almutaches, obligent les gens à balayer devant leurs portes et à ramasser les ordures qui doivent être acheminées vers des endroits prévus à cet effet. Des décharges, quoi. Ils interdisent aussi à la population de laisser les dépouilles des chiens. des moutons et des mulets pourrir sur la voie publique. À l'aube du XVIe siècle, avec une forte population d'esclaves noirs, on prendra l'habitude de jeter les corps des esclaves morts dans des fosses à fumier ou dans des décharges à ciel ouvert. Nourrissant les vautours et les chiens sauvages, les restes qui ne sont pas mangés pourrissent au soleil. Vous commencez déjà à sentir l'odeur, n'est-ce pas? Dans sa grande mansuétude, le roi Manuel Ier, en 1515, ordonnera de creuser des puits profonds entourés de petits murs de pierre, où les cadavres des esclaves seront jetés et arrosés de chaux vives, régulièrement, pour accélérer leur décomposition. Du coup, l'air ambiant de Lisbonne commencera à être plus respirable. Il n'y a vraiment pas de quoi s'étonner que la peste y ait fait des ravages. Mais malgré tout, l'un des plus grands problèmes d'hygiène était à Aguavaille. Tout simplement, les contenus des pots de chambre qu'on balançait par la fenêtre. Pourtant, des décrets exigent qu'on aille les vider dans l'otage. Jouant d'eux, en 1484, émet un décret ordonnant qu'on les vide dans des endroits bien précis. Mais rien n'y fait. L'habitude de jeter ses excréments et autres eaux sales dans la rue perdurera jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Il y aura une certaine accalmie vers le milieu du XVIe, quand les esclaves noirs étaient chargés de vider dans l'otage le contenu des pots de chambre de leur maître chaque matin. Le conseil municipal essaiera d'installer plusieurs points, ou chafariges, où les femmes se retrouvent pour laver le linge. Certains voudraient que l'on mette en place des égouts, mais il faudra attendre plusieurs siècles avant que le projet voie le jour. Alors, en attendant, on creuse des canaux au milieu des rues pour l'évacuation des eaux usées. Les Lisouettes savent que les pluies torrentielles et l'air marin de l'Atlantique chasseront les odeurs nauséabondes.
Quale idea? Não ouves a tua cidade chamar por ti. Entra na zona, Não digas que tens de sair para acontecer. Eu já não vou nem tentar, Se a cidade quer, deixa andar. Eu já não vou nem tentar, Mesmo sem saber, deixa-te arrachar. Vem sim.
Tout le long du Moyen-Âge, la production de blé peine à nourrir convenablement la population de Lisbonne. Les fours à pain sont exclusivement la propriété des rois et des puissants et une bonne partie du clergé. Entre 1300 et 1500, la capitale eut à subir plusieurs disettes et famines. Alors l'État portugais se tourne vers les autres pays européens, la Castille, la France, l'Italie, et surtout l'Allemagne qui deviendra le plus important fournisseur de blé du Portugal. Le marché de Lisbonne, quand il ne souffre pas des disettes, propose quatre sortes de pain, du noir au blanc. Le pain blanc, fait avec du blé importé, est réservé pour les plus riches. Les autres, les pauvres, se contentent d'un pain noir, fait à partir d'un blé non vanné, ou de châtaigne ou de figues séchées. À partir de 1415 et la prise de ce tas, Lisbonne va s'enrichir, grâce notamment aux grandes découvertes menées tambour battant par l'infant Henrik. Sur les marchés de Lisbonne, outre une ribambelle d'esclaves noirs, on voit apparaître du bétail et du blé, de meilleure qualité que le blé portugais en provenance du Maroc. On voit aussi de la gomme arabique, des civettes, des plumes et des œufs d'autruche, de l'ivoire, des peaux de phoque et d'antilope. Un terrible triangle d'or va s'installer également sur le trafic des esclaves. L'or commence à arriver, et puis ce qui, au XVIe siècle, a fait de Lisbonne la ville la plus riche d'Europe, les épices. Le XVIe siècle fut l'âge d'or de Lisbonne et du Portugal. Charles Quint, le souverain d'Espagne, disait lui-même « Si j'étais roi de Lisbonne, je serais en peu de temps roi du monde ». Le roi Manuel Ier ne fut pas appelé le fortuné pour rien. Sous son règne, de magnifiques constructions vont voir le jour. Le palais sur Terreiro do Paço, la place du commerce, va être embelli, construit littéralement sur les berges du Tage. Au pied sera construit au Cais das Colunas, où arriveront les bateaux en provenance des Indes ou d'ailleurs, dont les cales seront remplies d'épices et d'or, ou d'ivoire, ou de ce bois précieux, un peu rougeâtre, qui vient tout droit de la nouvelle colonie, le Brésil. C'est lui aussi qui fera construire la tour de Belém, réservé au capitaine des bateaux sur le point de partir vers de nouvelles terres. Et puis aussi le monastère des Hiéronymites, dont les moines pratiqueront la dévotion pour Saint Jérôme, le traducteur de la Bible. Au XXe siècle, les deux bâtiments seront classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'architecture sera du gothique baroque, que l'on appellera l'art manuelin du nom du souverain. Après la mort de l'infant Henrik, la maison de l'Inde, de la monnaie et surtout à Casa da Mina, qui contrôle l'exploitation de l'or dans les colonies, vont être transférés à Lisbonne dans le quartier Ribeira, qui deviendra le vrai centre névralgique de la capitale et du Portugal. C'est de cette époque que date le célèbre palais à Casa dos Bicos. La légende dit que le propriétaire, un riche exploitant, voulait incruster des diamants dans les pointes, de manière que quand le soleil taperait sur la façade, la maison brillerait de mille feux. Mais le roi Manuel s'y opposa. Il ne voulait pas, comme voisinage, une demeure plus somptueuse que la sienne. Bien sûr, tout cela n'est que légende, quoique...
Cidade amiga, que és meu berço de embalar. Ensina-me uma cantiga das que tu sabes cantar. Uma cantiga singela, daquelas de enfeitiçar, para eu cantar à janela quando o meu amor passar. Sempre que Lisboa canta, não sei se canta, não sei se reza, a sua voz com carinho canta baixinho sua tristeza. Sempre que Lisboa canta, a gente encanta sua beleza. Pois quando Lisboa canta, canta o fado com certeza. Eu quero dar-te um castigo por tanto te ter amado. Quero que cantes comigo os versos do mesmo fado. Quero que Lisboa guarde tantos fados que cantei, para cantar-me mais tarde os fados que lhe ensinei. Sempre que Lisboa canta, não sei se reza, a sua voz com carinho canta baixinho sua tristeza. Sempre que Lisboa canta, a gente encanta sua beleza. Pois quando Lisboa canta, canta o fado com certeza. Não sei se canta, não sei se reza. A sua voz com carinho canta baixinho sua tristeza. Sempre que Lisboa canta, a gente encanta sua beleza. Pois quando Lisboa canta, canta o fado com certeza.
À mesure que le siècle avance, tous les marchands enrichis veulent construire leur petit palais Narribert, au point que Lisbonne sera connue comme la ville aux 100 palais et des églises. En 1515, un corps de métier est institué, dont les membres reçoivent le statut d'artisan-artiste. C'est le début d'une longue tradition qui perdure encore aujourd'hui, dont les héritiers vont, au XVIIIe siècle, paver tous les trottoirs de Lisbonne de mosaïques, de basalte, et de calcaire, déclinés en un inépuisable répertoire de figures géométriques et de dessins. Au milieu du XVIe siècle, la ville compte environ 400 rues et une 60aine de places. Les habitations commencent à monter la colline Saint-Roch, puis s'étend vers l'ouest. C'est l'apparition du quartier au Barro Alto. On peut dire que c'est le tout premier quartier moderne de la cité. Il n'est pas construit sur le modèle médiéval, mais il est fait de sorte qu'on puisse y circuler à cheval, puis plus tard en carrosse. Et malgré le terrain accidenté, on ne construit ni escalier, ni impasse, ni place. Les rues sont bien plus larges que dans les quartiers d'Alfama et Amorrerie. L'histoire n'a pas retenu le nom des architectes qui ont créé le quartier, mais la présence de la Compagnie de Jésus, autrement dit les Jésuites, ont grandement influencé la construction. Les jésuites s'installeront définitivement à Lisbonne sous le règne de Jean III, le successeur de Manuel Ier, en 1540. Au fil des années, Barro Alto deviendra le quartier aristocratique, et on commence à voir des palais côtoyer des masures, car les familles des marins et des ouvriers de l'arsenal, maîtres des lieux depuis le Moyen-Âge, habitent toujours le quartier. Le grand tremblement de terre de 1755 détruira la majorité des 30 palais qu'il y avait dans le Barro Alto. En vérité, aujourd'hui, il n'y en a plus que 4 debout. De nos jours, tous les grands édifices que l'on a énumérés et qui datent d'avant le terrible séisme de 1755 ont pratiquement tous disparu. Seul réellement la tour de Belém, le monastère des Hiéronymites et le couvent Madre de Deus, tous construits sous le règne de Manuel, ont échappé au cataclysme et donnent une idée de ce qu'a pu être Lisbonne à son apogée. À la fin du XVe siècle, les Juifs sont expulsés du Portugal, sauf ceux qui se sont convertis. On les appelle les nouveaux chrétiens. En 1506, un terrible pogrom impulsé par les dominicains va s'abattre sur les Juifs convertis. Un véritable massacre s'ensuit. Un millier de personnes, hommes, femmes, enfants, même les nourrissons que l'on prend par les pieds et dont on fracasse la tête contre les murs sont assassinés. Dans les semaines qui suivirent, le mouvement tourna en une véritable insurrection, toujours menée par les dominicains. Le pays était au bord de la guerre civile. Manuel Ier et sa cour étaient loin de Lisbonne au moment des faits, car une terrible peste sévissait dans la ville. Il faudra l'intervention des soldats pour rétablir l'ordre. Les fauteurs de troubles seront arrêtés et exécuté sans procès.
Every time I close my eyes.
Le tout premier autodafé à Lisbonne se déroulera le 20 septembre 1540 dans le Terreiro do Passo. 6 personnes seront brûlées, 2 femmes et un homme accusés de sorcellerie, et 3 nouveaux chrétiens. Dans les siècles qui vont suivre, cela sera, on va dire, une des distractions préférées des Lisboètes. Les potences, que l'on appelle os catafalques, je prononce bien, sont de véritables chefs-d'œuvre de menuiserie. Ils peuvent atteindre 40 mètres de long sur 20 de large. On les a dressés sur les 3 plus importantes places de la ville, au Terreiro do Passo, au Rossio et à Ribera. La deuxième partie du XVIe siècle est assez chaotique. En 1557, Sébastien, dernier roi de la dynastie des Avises, monte sur le trône du Portugal à l'âge de 16 ans. L'année d'après, une terrible peste s'abat sur Lisbonne, tuant un tiers de la population en l'espace de quelques mois. Au printemps 1569, une rumeur insidieuse commence à se répandre dans les tavernes de la ville, puis atteint les sacristies et les salons de la bourgeoisie et de la noblesse. Que dit-on ? La rumeur affirme, et c'est confirmé par quelques illuminés, que le 10 juin de la même année, les collines du Carme et du château se soulèveront lors d'un gigantesque tremblement de terre. Elles formeront, à elles deux, une montagne qui se déversera dans le Tage, en le comblant entièrement. Lisbonne, la ville aux mille péchés, sera engloutie. Il n'y eut pas besoin de réseaux sociaux pour que la rumeur enfle et tourne carrément à l'hystérie générale. Le 9 juin, la ville est vidée de ses habitants. Les Lisboètes abandonnent leur ville, la laissant aux meutes de chiens sauvages. Au-delà de cette histoire assez cocasse, il faut bien l'avouer, on peut voir, là-dedans, une terrible prémonition, une sorte de répétition générale. Car la vision de centaines de chariots où les gens terrorisés encombrent les routes et les chemins qui mènent à la capitale préfigure ce qui arrivera réellement, 2 siècles plus tard, le 1er novembre 1755. Le dernier rejeton de la lignée des Habsbourg est nourri de rêves et de grandeur. Sébastien, à qui toute tentative de le marier fut vaine, va mener le Portugal au désastre. Après les déconvenues, ou plutôt la déroute, d'Al-Ghazal al-Kabir, en août 1578, 2 ans plus tard, l'oncle de Sébastien, Philippe II d'Espagne, prend la couronne du Portugal. Et 60 ans d'occupation espagnole commence. Le souverain espagnol va s'installer pendant 3 ans à Lisbonne. Et lui aussi apprécie de voir arriver les bateaux. Nos caixes das colunas du haut des fenêtres du palais. Beaucoup de conseillers lui soufflent à l'oreille que faire de Lisbonne la capitale de la péninsule ibérique serait judicieux. Son père, Charles Quint, ne lui disait-il pas que celui qui était le maître de Lisbonne serait le roi du monde ? Si les Espagnols veulent se donner les moyens de leur ambition, car du coup leur empire maritime a doublé, il faut pour cela un gouvernement près de la mer. Manuel Severin de Faria écrira en 1625 « Les seuls qui ont dominé la mer ont été ceux qui ont ainsi leur pouvoir à proximité de l'océan. » Mais rien n'y fait. Les Espagnols sont trop attachés à la capitale des plaines castillanes. Et le pouvoir restera à Madrid. Tout au plus, Lisbonne sera une deuxième capitale. Et le Portugal gardera une relative autonomie.
Ma ville en bord de mer, tu t'accroches à mes basques. Quand je dois m'en aller vers d'autres horizons, j'ai en ta compagnie fait un peu trop de frasques. Le moment est venu de payer l'addition. Terre de mes amours de jeunesse immature, à 20 ans je croyais que tu m'étais permis. Je ne fais pas toujours blanc-bleu en aventure. Quand on est jeune et fou, on veut brûler ses vies. Lise-moi, je passe un peu loin et au hasard, de port en port, de gare en gare, pour effacer les cris stridents de ma mémoire et tenter un nouveau départ. Je pars, lise-moi, je fuis vers l'incertain, vers l'infini, vers des ailleurs, chercher l'oubli. Comme un fouillard traqué, comme un proscrit, j'ai gâché l'amour et détruit ma vie. Ma ville, tout m'angoisse et mon cœur se déchire. Quand tout va me manquer là-bas dans mon exil, reviendrai-je jamais, mon Dieu, qui peut prédire? Pourrais-je, loin de toi, vaincre tous les périls? Ville de mes émois, mes mères et mes maîtresses, d'espoir en désespoir, tu as forgé mes jours. J'ai les yeux pleins de larmes et le cœur en détresse, sachant que je m'en vais peut-être pour toujours. Lise-moi, je pars sans peu loin au hasard, de port en port, des gares en gare, pour effacer les cris stridents de ma mémoire et tenter un nouveau départ. Je pars, dis-moi, je fuis vers l'incertain, vers l'infini, vers des ailleurs, chercher l'oubli. Comme un fouillard traqué, comme un proscrit, j'ai gâché l'amour et détruit ma vie. Je ne marcherai plus tout au long de la rade, au bras de mon amour, heureux et cœur battant, frimant à ses côtés à m'en rendre malade, fier de son temps allé et de son corps troublant. J'ai piétiné ses rêves sans raison ni cause, elle a désabusé, a mis fin à ses jours. De remords en regret, j'ai pris une chose, c'est quand l'amour n'est plus que l'on croit à l'amour. Lise-moi, je pars sans peu loin au hasard, de port en port, de gare en gare, pour effacer les cris stridents de ma mémoire et tenter un nouveau départ. Je pars, lise-moi, je fuis vers l'incertain, vers l'infini, vers des ailleurs, chercher l'oubli. Comme un fuyard traqué, comme un proscrit, j'ai gâché l'amour et détruit ma vie. Lise-moi, je fuis vers l'incertain, vers l'infini, vers des ailleurs, chercher l'oubli. Comme un fuyard traqué, comme un proscrit, j'ai gâché l'amour et détruit ma vie.
Hélas, les conséquences de cette étroitesse d'esprit ne tardent pas à venir. Le désastre de l'invincible Armada en juin 1581 assombri les dernières années du souverain. Seigneur blanc en argent, vaisseau et équipage, Lisbonne est ruinée. De plus, pour ne pas arranger les choses, un séisme en 1598, suivi d'une épidémie de peste, précipite la dégringolade de la ville. Pourtant, Philippe II d'Espagne a essayé lui aussi d'embellir la cité. Il y fera construire une grande tour, non loin de Torreal do Paz, le Torreão. Il disparaîtra suite au séisme de 1755. Mais la ville lui doit surtout la rénovation de ses fortifications, qui commençaient par endroits à tomber en ruine. En 1590, un ingénieur italien, Spanucci, est chargé de concevoir un dispositif pour la défense de l'embouchure du Tage, en plein milieu de l'estuaire. La forteresse de San Lorenzo do Bugio, plus communément appelée à Tour do Bugio, érigée sur le banc de sable de la terre sèche, Cabeça Seca, de nos jours, il a été transformé en phare. Les Espagnols font aussi reconstruire l'église du monastère de San Vicente de Fora. Par la suite, elle servira de modèle aux églises construites à travers l'empire du Brésil à Macao. C'est là aussi que seront enterrés presque tous les rois et reines de la dynastie de Braguens. En 1620, Lisbonne compte environ 165 000 habitants. Elle s'étend de Sabregas à Belém. Malgré tout, la ville est un vrai labyrinthe. Les rues sont si étroites, surtout vers le fleuve, qu'il est pratiquement impossible de se croiser à cheval. Les carrosses encombrants provoquent souvent des accidents. Les chaises à porteurs se multiplient, plus pratiques pour circuler dans le dédale de la cité. Le Lisbonne de ces années-là est une ville dangereuse. Les riches, ceux qui en ont les moyens, ne se déplacent qu'avec une garde rapprochée, armée jusqu'aux dents. En 1682, une bande qui se fait appeler les 12 apôtres terrorise les Lisboètes pendant des années, plus particulièrement dans l'obscurité des nuits, d'autant que les rues de Lisbonne ne seront éclairées qu'au XIXe siècle. Plus que les soldats, les bandes de valets de pied et d'esclaves sont les principaux responsables des agressions. Un voyageur, François de la Tour, écrira « Durant près de 6 mois que j'ai passé à Lisbonne, il ne se passait pas un jour qu'il n'y ait eu quelqu'un de tué. S'ils, il parlait des Lisboètes, ont quelque rancune contre quelqu'un, ils le feront tuer par un nègre ou un mort. » Les grands seigneurs, de leur côté, montrent l'exemple en faisant tuer les magistrats chargés des enquêtes contre leurs domestiques qui avaient agi en leur nom. Une impunité et un relâchement flagrant de la municipalité fait de Lisbonne une ville où il faut avouer, il ne fait pas bon vivre, surtout quand vous n'avez pas les moyens de vous défendre. Après la domination espagnole, la situation prit du temps pour s'améliorer. Suite à des augmentations d'impôts, des émeutes éclatèrent, et bien souvent, les nouveaux chrétiens, les juifs, en faisaient les frais. La noblesse, de leur côté, déplore la perte d'une partie des colonies. À partir de 1640, date de la Restauration, une nouvelle dynastie s'installe sur le trône du Portugal. Ce sont les Braguens, qui resteront au pouvoir jusqu'en 1910. Disons-le tout de suite, à part peut-être le premier, ce ne furent pas des grands rois. À l'image d'Alphonse IV et Jean V, qui étaient plus préoccupés par leurs amours que les affaires de l'État. Jean entretient carrément un harem, à Odivelas, constitué de novices, de religieuses et d'abbesses. C'est de cette époque-là que naissent dans les couvents, outre les enfants de rois illégitimes, la plupart des desserts et autres gâteaux que l'on trouve aujourd'hui au Portugal. Les plus connus, la confiture de coin et au pastéis de nata.
Fazes aí, Lisboa, de olhos fincados no rio, os olhos não são amarras para prender um navio. Ai, que fazes aí, Lisboa, de olhos fincados no rio? O barco que ontem partiu e não volta mais. Chora lágrimas de pedra pelas esquinas do cais. O barco que ontem partiu, partiu e não volta mais. Lisboa, velha Lisboa, mãe pobre à beira do rio, seja o cheiro dos meus ombros o agasalho do teu frio. Lisboa, velha Lisboa, mãe pobre à beira do rio. De olhos fincados no rio, os olhos não são amarras para prender um navio. Que fazes aí, Lisboa? De olhos fincados no rio.
Au siècle des Lumières, l'or brésilien en provenance du Mato Grosso et de Minas Gerais va inonder Lisbonne. En l'espace de moins d'un siècle, 1000 tonnes d'or vont arriver au Portugal, freinant la déchéance du pays. Malgré tout, Jean V, à part le grandiose couvent qu'il fait construire à Mafra, investit aussi à Lisbonne. Il fait construire des nouveaux couvents et églises. L'originalité, me direz-vous. Il n'empêche que l'église baroque de Santa Engracia deviendra, au XXe siècle, le panthéon national, là où reposent les grands personnages de l'histoire du Portugal. Et le couvent des Necessidades est devenu, de nos jours, le siège du ministère des Affaires étrangères. Mais surtout, c'est à cette période qu'est construit l'aqueduc des Eaux Libres. Il sera commencé en 1720 et achevé en 1748. Il sera commandé à Jorge do Amaral sur des plans de Custódio Vieira et Manuel de Maia. Il permet enfin de résoudre le problème du ravitaillement en eau de la capitale. Il partira du petit village de Canessas, il enjambera la vallée de l'Alcantara, passant au-dessus de la faille sismique qui se situe en profondeur à la verticale. Sa longueur totale sera de 18 km. Malgré son emplacement, il résistera au séisme. Lisbonne, à la veille du tremblement de terre, n'a pas changé. Depuis le XVIe siècle, les rues sont toujours aussi étroites. Les immondices s'entassent sur la place du commerce. Le mélange entre les effluves marines du port et l'odeur pestilentielle des ordures qui s'entassent ici et là fait régner une atmosphère quelque peu nauséabonde dans la cité. La nuit, faute d'éclairage, la ville entière devient un vrai coupe-gorge. Les maisons, infestées de rats et de poux, sont à la limite de l'insalubrité. Et pourtant, vu d'étage, la ville est belle. Du moins, jusqu'à ce 1er novembre 1755.
da viela mais escondida, cheira a iscas com elas e a vinho, um craveiro numa água furtada,
cheira bem, cheira a luz lua,
uma rosa a florir na tapada,
cheira bem, cheira a luz lua,
a fragata que se ergue na proa, a varinda que dá e vem passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar.
Cheira bem, cheira a Lisboa.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Dans une prochaine émission, nous vous parlerons de l'histoire de Lisbonne de 1755 à nos jours. D'ici là, portez-vous bien.
Et oui, voilà, très chers auditeurs, notre émission se termine et avec elle se termine également la saison, puisque nous allons faire une pause pendant les deux prochains mois, juillet et août. Mais notre émission ne restera pas muette, bien entendu, puisque nous transmettrons pendant l'été quelques-unes des émissions qui ont remporté le plus d'audience. Merci à Jeff, merci à Manu et merci à vous tous, chers auditeurs. Je vous souhaite de bonnes vacances. Soyez prudents, je vous embrasse.
Et oui, Rencontre Lusophone, c'est terminé. Si vous voulez réécouter cette émission, sachez que vous pourrez le faire demain sur cette même fréquence à partir de 15h. Sinon, dans quelques minutes, vous aurez le podcast à votre disposition sur notre page radio Rencontre Lusophone, au pluriel, ou sur la page web et Facebook de Radio Résonance. Merci pour votre fidélité. Continuez à nous écouter, ça nous fait plaisir. On vous embrasse tous et toutes. Bonnes vacances et sortez couverts. À tes mâches.
A fragata que se ergue na proa, a varina que teima em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiros de flores e de mar.
Autre chose, la troisième partie de notre histoire de Lisbonne sera qu'au mois de septembre. On ne sait pas encore la date, mais on verra.
Un maximum de musique, un maximum de son. 96.9,
c'est Radio Résonance.
Achar que nunca vai servir, caguei os cursos de me aproximar. Só ponho creme nas manchas da pele, se funcionar.